On va passer ce matin à une période de questions-réponses. Catherine, je suggérerais que, à moins qu'il y ait une question qui est posée spécifiquement à l'un des intervenants, qu'on peut s'imaginer que la question est posée à tous, ce qui permet peut-être à chacun des intervenants, de façon brève, de donner sa version des faits. Il y en a beaucoup et nous avons une heure. Donc, on ne va pas pouvoir, je crois, répondre à toutes, mais peut-être les réponses à certaines vont avoir vertu d'universalité et répondre un peu plus largement même à ceux et celles qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir une réponse spécifique. Ça, c'est une question, c'est une citation de Thich Nhat Hanh. Si nous continuons à abuser de la terre de cette façon, il n'y a pas de doute que notre civilisation va être détruite. Pour éviter cela, on a besoin d'éveil. Le Bouddha a atteint l'éveil individuel. Maintenant, nous avons besoin d'un éveil collectif pour arrêter cette course à la destruction. La question, c'est comment associer contemplation et action pour favoriser cet éveil collectif.
Well, I think the biologists have discovered the syndrome of the tenth monkey, isn't it called the hundredth monkey?
Je crois que les biologistes ont découvert le syndrome du dixième singe.
If one monkey discovers how to break a coconut.
Si un singe découvre comment casser une noix de coco,
other monkeys living on another island somehow share in this discovery.
D'autres singes qui vivent sur des îles différentes partagent cette découverte, apprennent à le faire aussi.
It's what the English biologist Rupert Sheldrake calls morphic resonance.
C'est ce que le biologiste anglais Rupert Sheldrake appelle la résonance morphique.
And maybe this is a little explanation of the impact of the great spiritual teachers of humanity.
Et c'est peut-être une explication de l'impact qu'ont eu les enseignements des grands maîtres spirituels de l'humanité.
Clearly, we need to change our mind.
Clairement, on a besoin de changer nos esprits.
To develop a new way of looking at our global problems.
Pour développer une nouvelle façon d'aborder nos problèmes globaux.
Simply because the scale of our problems is global.
Simplement parce que l'échelle de ces problèmes est globale.
But does this mean that every individual has to become fully enlightened?
Est-ce que ça veut dire que chaque individu doit atteindre au plein éveil?
It's not very realistic.
C'est pas très réaliste.
The Book of Wisdom in the Bible says the hope for the salvation of the world.
Le livre de la sagesse dans la Bible dit que l'espoir pour le salut du monde
lies in the greatest number of wise people.
Réside dans le nombre le plus élevé de gens sages.
It doesn't say how many.
Ça ne dit pas combien.
But more than we have now.
Mais plus que ce que nous avons maintenant.
The Transcendental Meditation have a theory that
la méditation,
2%, I think, of the population are meditating, the crime rate goes down.
La méditation transcendantale dit que s'il y a 2% de méditants sur la face de la Terre, le niveau de criminalité baisse.
And it makes sense that the more people who meditate,
et ça a du sens que plus de personnes méditent,
the less ignorance there will be,
moins d'ignorance il y aura,
the more self-control,
le plus de contrôle de soi.
Meditation leads to the wisdom of moderation, the middle path.
La méditation conduit à la modération, à la voie du milieu.
It raises our capacity to see from the other person's point of view.
Ça rehausse notre capacité à voir les choses du point de vue de l'autre.
So, the more religious leaders,
donc plus les dirigeants religieux,
and people working, more importantly, I think, people working at the grassroots level,
et plus important encore, des gens qui travaillent plus à un niveau terre à terre,
the more they can accentuate the contemplative dimension of their traditions,
plus ils accentuent la dimension contemplative de leur tradition,
the better for us all.
Mieux ça sera pour tout le monde.
But the word meditation, as we realized yesterday, is a difficult word to define.
Mais le mot méditation, comme on l'a vu hier, est un mot difficile à définir.
Meditation is more than relaxation.
C'est plus que la relaxation.
It's more than a way of boosting your immune system.
C'est plus qu'une façon de renforcer son système immunitaire, immunitaire.
It has these wonderful benefits.
Il y a beaucoup de bienfaits, sans doute.
But for deep change in consciousness,
mais pour qu'il y ait un changement profond de la conscience,
it has to be followed as a discipline.
La méditation doit être suivie comme une discipline.
More than as a technique.
Plus que comme une technique.
That's the challenge.
Et ça, c'est le défi.
But I think if we can start to, if we can be introduced to this discipline at a very young age.
Je crois que si on peut être introduit à cette discipline déjà à un très jeune âge.
We overcome our fear of it.
On peut aller au-delà de nos peurs de la chose.
And we acquire a taste for it.
Et on en acquiert le goût.
As I said before, children can meditate and they like to meditate.
Comme je l'ai déjà dit, les enfants peuvent méditer et aiment méditer.
If the more we can help children to practice their natural contemplative capacity.
Plus on aide les enfants à pratiquer cette tendance, à développer cette tendance naturelle qu'ils ont pour la méditation.
I think the more chance we will have of raising consciousness collectively.
Plus de chances qu'on aura pour rehausser le niveau de conscience collective. Okay.
Oui, cette relation entre la contemplation et l'action, je crois qu'on en a un petit peu parlé. Il me semble que la phrase d'ailleurs qui est citée dans cette question est tout à fait intéressante. Elle met le doigt sur un peu ce sentiment que l'on a par rapport à cette période où nous vivons, qui est à la fois une sorte de transformation individuelle et la conscience d'une nécessité de transformation collective. Je crois que c'est cela. J'avais lu tout à l'heure la question de ce maître de bouddhisme qui est vietnamien, comment il s'appelle ? Chinana. Jonathan. On est bien d'accord. Et donc, c'est le sentiment que j'ai également depuis pas mal de temps et que l'on ressent, donc une sorte voilà, de paradigme propre à notre temps. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est tout à fait frappant. Et c'est ça un peu cette... l'idée de synchronicité, des changements, des idées. On se rend bien compte qu'à un moment, plusieurs personnes ont des idées similaires dans des endroits très différents, sans qu'ils se soient rencontrés en aucune façon. Parce qu'on rentre dans un moment, dans une configuration, qu'il y ait sans doute à beaucoup de paramètres qui nous échappent et qui font qu'il y a quelque chose qui devient possible. Il y a des conditions possibles pour certains changements. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs même dans la philosophie et des sciences, c'est ce qu'on appelle le paradigme. Il y a un moment où bizarrement, il y a des tas d'inventions qui ne sont pas prises en compte parce qu'elles ne rentrent pas dans un paradigme. On ne peut pas les comprendre. Et puis d'un seul coup, il y a un moment où des choses auxquelles on n'a pas fait attention deviennent centrales et deviennent essentielles parce que elles vont accompagner un changement qui est nécessaire à un moment donné. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Et c'est cette relation entre la transformation individuelle et la transformation collective qui est aujourd'hui une de ces idées forces qui sont celles de notre temps et qui bien sûr s'accomplissent, cette transformation collective s'accomplit à travers les différentes traditions spirituelles qui existent, mais toujours avec cette idée que c'est quelque chose qui est partagé. Et en plus, aujourd'hui, il y a cette transformation par rapport à un collectif qui est de plus en plus partagé. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où il n'y a plus ces séparations, ces frontières que l'on a connues auparavant. Il y a d'autres formes de frontières. Mais disons que nous sommes dans un monde tellement interdépendant que nous constituons une seule collectivité en réalité. C'est ça qu'on appelle la mondialité ou la mondialisation, ce que l'on veut. Mais c'est ce sentiment-là que d'une façon ou d'une autre, notre sort est lié. Notre sort est lié et on ne peut plus aujourd'hui penser la transformation du monde indépendamment de cette idée-là aussi. Que notre sort est lié. Si aujourd'hui il y a une puissance quelconque qui estime qu'elle peut simplement elle donner l'orientation imposée, elle se trompe. Ça ne fonctionnera pas parce que elle-même est dépendante de beaucoup d'autres choses, de tout ce qui l'entoure. Bien plus qu'elle n'imagine. Il n'y a plus de puissance séparée. Il y a une interdépendance continuelle. Et donc, on est obligé de penser la transformation du monde dans cet esprit-là. En comprenant que, par exemple, aujourd'hui, dans l'idée de l'interdépendance, si je veux servir véritablement, même en étant simplement un politicien de base, si je veux servir véritablement mon propre intérêt, il faut que je serve l'intérêt des autres. Parce que mon intérêt est dépendant de celui des autres. Mais si je me dis, je veux simplement mon intérêt, je veux simplement, comme l'a fait Bush pendant plusieurs années, n'est-ce pas, m'intéresser à mon pays, le nationalisme dans le sens le plus étroit, l'esprit religieux dans le sens le plus étroit. Et on ne fait que s'autodétruire. Et donc il y a là quelque chose de changement. Et c'est cela qui est intéressant dans la spiritualité, c'est que c'est vraiment quelque chose qui répond aux besoins d'une certaine époque. De la même manière que la spiritualité, ce n'est pas quelque chose que l'on porte d'une façon conventionnelle, quelle que soit la personne, quel que soit le lieu, quelle que soit la situation, elle est toujours le fruit de la réalité de l'instant. Que cet instant soit individuel, ou qui soit collectif. Et donc, il y a là, c'est pour ça que je pense que de plus en plus, les sagesses du monde ont quelque chose à apporter dans le monde aujourd'hui. C'est même une nécessité. Simplement, comme nous sommes une seule collectivité, donc c'est pour ça que l'interfaith, tout ce qui est interreligieux, intertradition, prend de plus en plus d'importance. Parce qu'on ne peut agir que collectivement. Simplement, au lieu d'être simplement dans des conclaves, ce qui est sans doute une étape nécessaire et intéressante, dans des conclaves où il y a cette approche ou ce rapprochement entre les différentes religions, déjà c'est un signe des temps. Mais maintenant, ces interreligions ou intertraditions ou ces sagesses du monde doivent agir ensemble vis-à-vis de ce monde. Doivent entreprendre des actions vis-à-vis de ce monde d'une façon active. Alors ça me fait penser à quelque chose, à une charte qu'on avait signée avec Lama Denis il y a bien des années de là, auprès de l'arbre de la Bodhi, c'est comme ça qu'on dit, à Bodh Gaya. Et peut-être à l'époque, ça faisait pas autant. C'était sans doute important si on l'avait fait, c'est qu'on en sentait les besoins. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus évident. Donc la charte, on devrait la réactiver. L'union des traditions unies.
Inch'Allah. Nous avions lancé l'initiative des traditions unies pour justement favoriser la coopération intertradition. Les traditions spirituelles peuvent, dans le désastre écologique contemporain, avoir un rôle très important. Il y a même une même nature entre spiritualité et écologie. La spiritualité, dans ce qu'elle a d'essentiel, est dans le dépassement de soi, du petit moi, de l'égoïsme et de ses passions. Et dans l'harmonie, l'harmonie intérieure, si on la nommait spirituelle, et l'harmonie extérieure, que l'on peut nommer écologique, sont interdépendantes. Il n'y a pas d'harmonie extérieure sans harmonie intérieure et réciproquement. Le désastre contemporain dont on commence à voir les prémices vient de l'avidité. La crise, c'est la crise du vampire. Vous connaissez les vampires qui sucent le sang du voisin pour se nourrir. Notre système financier mondial, global, est tout simplement vampirique. C'est assez bien connu, même si généralement on ne l'entend pas beaucoup. Et nous pouvons faire une différence dans la pratique spirituelle en changeant de mentalité. La pratique spirituelle est la seule façon de changer d'esprit, de changer de mentalité et de vraiment changer de manière de vivre. S'il est difficile que le monde change aujourd'hui, c'est parce que nous sommes confrontés à nos résistances personnelles, moi, qui que je sois, pour transformer mon mode de vie. « Sois la transformation que tu voudrais voir advenir », disait le Mahatma Gandhi que je citais hier. Donc, soyons chacun, là où nous sommes, la transformation que nous souhaiterions voir globalement advenir. Alors, c'est possible, avec beaucoup de gestes simples, qui sont une pratique d'attention, une pratique de respect, une pratique d'économie. D'économie d'énergie. Il est aujourd'hui nécessaire d'aller vers une simplification de nos modes de vie, et particulièrement lorsque l'on est dans la petite élite des nantis que nous sommes ici aujourd'hui. Une simplification. Alors, nos amis bhoutanais ont inventé le BNB, pour remplacer le PIB. Le PIB est le produit intérieur brut, et le BNB, et c'est le bonheur national brut. Le bonheur n'est pas proportionnel au revenu. Et il s'agit de faire une conversion de civilisation en passant du quantitatif numéraire au bonheur et au bien-être profond. Dans la découverte de la simplicité bienheureuse, du bonheur de la simplicité, la modération volontaire et bienheureuse. Donc, c'est une pratique spirituelle de chaque instant. Demandez-vous si votre vie est viable, sustainable. Quelle est votre empreinte écologique? Et l'on peut, chaque fois que l'on est amené à faire quelque chose, agir avec discernement. Il y a une façon de voter extrêmement opérative qui est le cashier vote. Ce n'est pas cashier, c'est à la caisse. Chaque fois que vous achetez, vous faites un geste politique. Et vous pouvez acheter d'abord avec discernement et dans cette perspective de simplicité volontaire et bienheureuse, et aussi en sachant pondérer la valeur commerciale avec une valeur éthique et écologique. Donc, beaucoup de choses sont ainsi possibles, et c'est la société civile, c'est-à-dire nous, citoyens, qui, dans notre sensibilité, notre sensibilisation, nous pouvons faire quelque chose aujourd'hui. Et nous sommes dans une course contre la montre grave. et je pense plus grave que ce que l'on imagine. Donc, ça n'est plus, comme beaucoup disent, business as usual. C'est le moment de vraiment réagir. Réagir dans et par tous les moyens possibles et certainement aussi, comme le disait Don Laurence, par l'éducation. Mais l'éducation des enfants, tout essentielle qu'elle est, aujourd'hui, il n'y a pas de temps. Ça n'est pas dans 20 ans. C'est vraiment maintenant qu'il faut agir.